Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué.
Grand-mère Rosot n'est pas là ? Non, dit Bertille, elle est partie très tôt ce matin. À Lompon, chez votre oncle Fred.
Le bon Dieu est absent. On devrait rendre un décret pour forcer Dieu à résidence. Il est à sa maison de campagne et ne s'occupe pas de nous. Aussi, tout va de guingois.
Et il prit l'air d'une jolie brunette, plus gentille que les amours. De belles petites joues roses comme une pêche. Un nez retroussé mignon, mignon. Si la nature pense, les paysages sont les expressions de ses idées.
De la littérature, de la musique, c'est Lyrix, sur Radio U, 101.1.
Bonsoir et bienvenue dans Lyrix. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un grand auteur de la littérature française, Émile Zola. Sur le plan littéraire, il est principalement connu pour la série Les Rougon-Macquart, fresque romanesque en 20 volumes dépeignant la société française sous le Second Empire. On y trouve les romans tels que L'Assommoir, La Bête humaine ou encore Germinal. Pour ce qui est de cette émission, qui se déclinera en 3 parties, nous avons choisi d'aborder une œuvre moins connue, La mort d'Olivier Bécaille. Il s'agit d'une des 6 nouvelles du recueil Naïs Micoulin, qui se distingue des œuvres classiques de Zola par une tonalité souvent moins sombre, un traitement moins tragique et même ironique du destin des personnages. Dans ces nouvelles, même si Zola reste assez désabusé sur la nature humaine, on constate que son regard sur l'humanité est assez indulgent, sinon chaleureux. Ce recueil fait découvrir un Zola en pleine possession de son talent et plus libre que dans son projet des Rougon-Macquart. C'est un samedi, à 6h du matin, que je suis mort après 3 jours de maladie. Ma pauvre femme fouillait depuis un instant dans la malle où elle cherchait du linge. Lorsqu'elle s'est relevée et qu'elle m'a vu rigide, les yeux ouverts, sans un souffle, elle est accourue, croyant à un évanouissement, me touchant les mains, se penchant sur mon visage. Puis, la terreur l'a prise et, affolée, elle a bégayé en éclatant en larmes. « mon Dieu, il est mort !» J'entendais tout, mais les sons affaiblis semblaient venir de très loin. Seul mon œil gauche percevait encore une lueur confuse, une lumière blanchâtre où les objets se fondaient. L'œil droit se trouvait complètement paralysé. C'était une syncope de mon être entier, comme un coup de foudre qui m'avait anéanti. Ma volonté était morte, plus une fibre de ma chair ne m'obéissait. Et, dans ce néant, au-dessus de mes membres inertes, la pensée seule demeurait, lente et paresseuse, mais d'une netteté parfaite. Ma pauvre Marguerite pleurait, tombée à genoux devant le lit, répétant d'une voix déchirée « Il est mort, mon Dieu, il est mort !» Était-ce donc la mort, ce singulier état de torpeur, cette chair frappée d'immobilité, tandis que l'intelligence fonctionnait toujours ? Était-ce mon âme qui s'attardait ainsi dans mon crâne avant de prendre son vol ? Depuis mon enfance, j'étais sujet à des crises nerveuses. 2 fois, tout jeune, des fièvres aiguës avaient failli m'emporter. Puis, autour de moi, on s'était habitué à me voir maladif. Et moi-même, j'avais défendu à Marguerite d'aller chercher un médecin lorsque je m'étais couché le matin de notre arrivée à Paris dans cet hôtel meublé de la rue Dauphine. Un peu de repos suffirait, c'était la fatigue du voyage qui me courbaturait ainsi. Pourtant, je me sentais plein d'une angoisse affreuse. Nous avions quitté brusquement notre province, très pauvre, ayant à peine de quoi attendre les appointements de mon premier mois dans l'administration où je m'étais assuré une place. Et voilà qu'une crise subite m'emportait. Était-ce bien la mort ? Je m'étais imaginé une nuit plus noire, un silence plus lourd. Tout petit, j'avais déjà peur de mourir. Comme j'étais débile et que les gens me caressaient avec compassion, je pensais constamment que je ne vivrais pas, qu'on m'enterrerait de bonne heure. Et cette pensée de la terre me causait une épouvante à laquelle je ne pouvais m'habituer, bien qu'elle me hantât nuit et jour. En grandissant, j'avais gardé cette idée fixe. Parfois, après des journées de réflexion, je croyais avoir vaincu ma peur. Eh bien, on mourait, c'était fini. Tout le monde mourait un jour. Rien ne devait être plus commode ni meilleur. J'arrivais presque à être gai. Je regardais la mort en face. Puis, un frisson brusque me glaçait, me rendait à mon vertige, comme si une main géante m'eût balancé au-dessus d'un gouffre noir. C'était la pensée de la terre qui revenait et emportait mes raisonnements. Que de fois la nuit je me suis réveillé en sursaut, ne sachant quel souffle avait passé sur mon sommeil, joignant les mains avec désespoir, balbutiant. « mon Dieu, il faut mourir !» Une anxiété me serrait la poitrine, la nécessité de la mort me paraissait plus abominable dans l'étourdissement du réveil. Je ne me rendormais qu'avec peine, le sommeil m'inquiétait, tellement il ressemblait à la mort. Si j'allais dormir toujours, si je fermais les yeux pour ne les rouvrir jamais. J'ignore si d'autres ont souffert ce tourment. Il a désolé ma vie. La mort s'est dressée entre moi et tout ce que j'ai aimé. Je me souviens des plus heureux instants que j'ai passés avec Marguerite. Dans les premiers mois de notre mariage, lorsqu'elle dormait la nuit à mon côté, lorsque je songeais à elle en faisant des rêves d'avenir, sans cesse l'attente d'une séparation fatale gâtait mes joies, détruisait mes espoirs. Il faudrait nous quitter, peut-être demain, peut-être dans une heure. Un immense découragement me prenait. Je me demandais à quoi bon le bonheur d'être ensemble, puisqu'il devait aboutir à un déchirement si cruel. Alors, mon imagination se plaisait dans le deuil. Qui partirait le premier, elle ou moi? Et l'une ou l'autre alternative m'attendrissait aux larmes, en déroulant le tableau de nos vies brisées. Aux meilleures époques de mon existence, j'ai eu ainsi des mélancolies soudaines que personne ne comprenait. Lorsqu'il m'arrivait une bonne chance, on s'étonnait de me voir sombre. C'était que tout d'un coup, l'idée de mon néant avait traversé ma joie. Le terrible « à quoi bon ?» sonnait comme un glas à mes oreilles. Mais le pis de ce tourment, c'est qu'on l'endure dans une honte secrète. On n'ose dire son mal à personne. Souvent, le mari et la femme, couchés côte à côte, doivent frissonner du même frisson quand la lumière est éteinte. Et ni l'un ni l'autre ne parle, car on ne parle pas de la mort, pas plus qu'on ne prononce certains mots obscènes. On a peur d'elle jusqu'à ne point la nommer. On la cache comme on cache son sexe. Je réfléchissais à ces choses pendant que ma chère Marguerite continuait à sangloter. Cela me faisait grand-peine de ne savoir comment calmer son chagrin en lui disant que je ne souffrais pas. Si la mort n'était que cet évanouissement de la chair, en vérité, j'avais eu tort de la tant redouter. C'était un bien-être égoïste, un repos dans lequel j'oubliais mes soucis. Ma mémoire, surtout, avait pris une vivacité extraordinaire. Rapidement, mon existence entière passait devant moi, ainsi qu'un spectacle auquel je me sentais désormais étranger. Sensation étrange et curieuse qui m'amusait. On aurait dit une voix lointaine qui me racontait mon histoire. Il y avait un coin de campagne près de Guérande, sur la route de Piriac, dont le souvenir me poursuivait. La route tourne, un petit bois de pin descend à la débandade une pente rocheuse. Lorsque j'avais 7 ans, j'allais là avec mon père, dans une maison à demi écroulée, manger des crêpes chez les parents de Marguerite, des paludiers qui vivaient déjà péniblement des salines voisines. Puis je me rappelais le collège de Nantes, où j'avais grandi dans l'ennui des vieux murs, avec le continuel désir du large horizon de Guérande, les marais salants à perte de vue, au bas de la ville, et la mer immense étalée sous le ciel. Là, un trou noir se creusait. Mon père mourait, j'entrais à l'administration de l'hôpital comme employé, je commençais une vie monotone, ayant pour unique joie mes visites du dimanche à la vieille maison de la route de Piriac. Les choses y marchaient de mal en pis car les salines ne rapportaient presque plus rien et le pays tombait à une grande misère. Marguerite n'était encore qu'une enfant. Elle m'aimait parce que je la promenais dans une brouette. Mais plus tard, le matin où je la demandais en mariage, je compris, à son geste effrayé, qu'elle me trouvait affreux. Les parents me l'avaient donné tout de suite, ça les débarrassait. Elle, soumise, n'avait pas dit non. Quand elle se fut habituée à l'idée d'être ma femme, elle ne parut plus trop ennuyée. Le jour du mariage, à Guérande, je me souviens qu'il pleuvait à torrents. Et, quand nous rentrâmes, elle dut se mettre en jupon, car sa robe était trempée. Voilà toute ma jeunesse. Nous avons vécu quelque temps là-bas. Puis, Un jour, en rentrant, je surpris ma femme pleurant à chaudes larmes. Elle s'ennuyait, elle voulait partir. Au bout de 6 mois, j'avais des économies, faites sou à sou à l'aide de travaux supplémentaires. Et, comme un ancien ami de ma famille s'était occupé de lui trouver une place à Paris, j'emmenais la chère enfant pour qu'elle ne pleurât plus. En chemin de fer, elle riait. La nuit, la banquette des 3e classe étant très dure, je la pris sur mes genoux, afin qu'elle pût dormir mollement. C'était là le passé, et, à 7 heures, je venais de mourir sur cette couche étroite d'hôtel meublé, tandis que ma femme, tombée à genoux sur le carreau, se lamentait. La tache blanche que percevait mon œil gauche pâlissait peu à peu, mais je me rappelais très nettement la chambre. À gauche était la commode, à droite la cheminée, au milieu de laquelle une pendule détraquée sans balancier marquait 10h06. La fenêtre s'ouvrait sur la rue Dauphine, noire et profonde. Tout Paris passait par là, et c'est dans un tel vacarme que j'entendais les vitres trembler. Nous ne connaissions personne à Paris. Comme nous avions pressé notre départ, on ne m'attendait que le lundi suivant à mon administration. Depuis que j'avais dû prendre le lit, c'était une étrange sensation que cet emprisonnement dans cette chambre où le voyage venait de nous jeter, encore effaré de 15 heures de chemin de fer, étourdi du tumulte des rues. Ma femme m'avait soigné avec sa douceur souriante, mais je sentais combien elle était troublée. De temps à autre, elle s'approchait de la fenêtre, donnait un coup d'œil à la rue, puis revenait toute pâle, effrayée par ce grand Paris dont elle ne connaissait pas une pierre et qui grondait si terriblement. Et qu'allait-elle faire si je ne me réveillais plus? Qu'allait-elle devenir dans cette ville immense, seule, sans un soutien, ignorante de tout? Marguerite avait pris une de mes mains qui pendait, inerte au bord du lit. Et elle la baisait, et elle répétait follement « Olivier, réponds-moi! Mon Dieu, il est mort! Il est mort !» La mort n'était donc pas le néant, puisque j'entendais et que je raisonnais. Seul, le néant m'avait terrifié depuis mon enfance. Je ne m'imaginais pas la disparition de mon être, la suppression totale de ce que j'étais, et cela pour toujours, pendant des siècles et des siècles encore, sans que jamais mon existence pût recommencer. Je frissonnais parfois lorsque je trouvais dans un journal une date future du siècle prochain. Je ne vivrais certainement plus à cette date, et cette année d'un avenir que je ne verrais pas, où je ne serais pas, m'emplissait d'angoisse. N'étais-je pas le monde? Et tout ne croulerait-il pas lorsque je m'en irais? Rêver de la vie dans la mort, tel avait toujours été mon espoir. Mais ce n'était pas la mort, sans doute. J'allais certainement me réveiller tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Je me pencherais et je saisirais Marguerite entre mes bras pour sécher ses larmes. Quelle joie de nous retrouver, et comme nous nous aimerions davantage! Je prendrais encore 2 jours de repos, puis j'irai à mon administration. Une vie nouvelle commencerait pour nous, plus heureuse, plus large. Seulement, je n'avais pas de hâte. Tout à l'heure, j'étais trop accablé. Marguerite avait tort de se désespérer ainsi, car je ne me sentais pas à la force de tourner la tête sur l'oreiller pour lui sourire. Tout à l'heure, lorsqu'elle dirait de nouveau « Il est mort, mon Dieu, il est mort !» Je l'embrasserais, je murmurais très bas, afin de ne pas l'effrayer. « Mais non, cher enfant, je dormais. Tu vois bien que je vis et que je t'aime. »
Till you was up.
Au cri que Marguerite poussait, la porte a été brusquement ouverte et une voix s'est écriée. « Qu'y a-t-il donc, ma voisine ? Encore une crise, n'est-ce pas ?» J'ai reconnu la voix. C'était celle d'une vieille femme, Madame Gabin, qui demeurait sur le même palier que nous. Elle s'était montrée très obligeante dès notre arrivée, émue par notre position. Tout de suite, elle nous avait raconté son histoire. Un propriétaire intraitable lui avait vendu ses meubles l'hiver dernier. Et, depuis ce temps, elle logeait à l'hôtel avec sa fille Adèle, une gamine de 10 ans. Toutes deux découpaient des abat-jour. C'était au plus si elle gagnait 40 sous à cette besogne. « Mon Dieu, est-ce que c'est fini ? » demanda-t-elle en baissant la voix. Je compris qu'elle s'approchait. Elle me regarda, me toucha, puis elle reprit avec pitié. « Ma pauvre petite, ma pauvre petite !» Marguerite, épuisée, avait des sanglots d'enfant. Madame Gabin la souleva, l'assit dans le fauteuil boiteux qui se trouvait près de la cheminée, et là, elle tâcha de la consoler. « Vrai, vous allez vous faire du mal, ce n'est pas parce que votre mari est parti que vous devez vous crever de désespoir. Bien sûr, quand j'ai perdu Gabin, j'étais pareil à vous, je suis resté 3 jours sans pouvoir avaler gros comme ça de nourriture. Mais ça ne m'a avancé à rien, au contraire, ça m'a enfoncé davantage. Voyons, pour l'amour de Dieu, soyez raisonnable. » Peu à peu, Marguerite se tut. Elle était à bout de force et, de temps à autre, une crise de larmes la secouait encore. Pendant ce temps, la vieille femme prenait possession de la chambre avec une autorité bourrue. « Ne vous occupez de rien, » répétait-elle. « Justement, Dédé est allé reporter l'ouvrage. Puis, entre voisins, il faut bien s'entraider. « Dites donc, vos malles ne sont pas encore complètement défaites, mais il y a du linge dans la commode, n'est-ce pas ?» Je l'entendis ouvrir la commode. Elle dut prendre une serviette qu'elle vint étendre sur la table de nuit. Ensuite, elle frotta une allumette, ce qui me fit penser qu'elle allumait près de moi une des bougies de la cheminée en guise de cierge. Je suivais chacun de ses mouvements dans la chambre, je me rendais compte de ses moindres actions. Ce pauvre monsieur, murmura-t-elle. « Heureusement que je vous ai entendu crier, ma chère. » Et, tout d'un coup, la lueur vague que je voyais encore de mon œil gauche disparut. Madame Gabin venait de me fermer les yeux. Je n'avais pas eu la sensation de son doigt sur ma paupière. Quand j'eus compris, un léger froid commença à me glacer. Mais la porte s'était rouverte. Dédé, la gamine de 10 ans, entrait en criant de sa voix flûtée. « Maman, maman ! Ah, je savais bien que tu étais ici. Tiens, voilà ton compte, 3 francs 4 sous. J'ai rapporté 20 douzaines d'abat-jour. »
« Chut, chut ! Tais-toi donc !» répétait vainement la mère.
Comme la petite continuait, elle lui montra le lit. Dédé s'arrêta et je la sentis inquiète, reculant vers la porte. « Est-ce que le monsieur dort ? » demanda-t-elle très bas. « Oui, va-t'en jouer !» répondit Madame Gabin. Mais l'enfant ne s'en allait pas. Elle devait me regarder de ses yeux agrandis, effarés et comprenant vaguement. Brusquement, elle parut prise d'une peur folle. Elle se sauva en culbutant une chaise. « Il est mort ! Oh maman, il est mort !» Un profond silence régna. Marguerite, accablée dans le fauteuil, ne pleurait plus. Madame Gabin rôdait toujours par la chambre. Elle se remit à parler entre ses dents. « Les enfants savent tout, au jour d'aujourd'hui. Voyez celle-là. Dieu sait si je l'élève bien. Lorsqu'elle va faire une commission ou que je l'envoie reporter l'ouvrage, je calcule les minutes, pour être sûr qu'elle ne galopine pas. Ça ne fait rien. Elle sait tout. Elle a vu d'un coup d'œil ce qu'il en était. Pourtant, on ne lui a jamais montré qu'un mort, son oncle François, et à cette époque, elle n'avait pas 4 ans. Enfin, il n'y a plus d'enfants. Que voulez-vous ? » Elle s'interrompit, elle passa sans transition à un autre sujet. « Dites donc, ma petite, il faut songer aux formalités, la déclaration à la mairie, puis tous les détails du convoi. Vous n'êtes pas en état de vous occuper de ça. Moi, je ne veux pas vous laisser seule. Hein ? Si vous permettez, je vais voir si Monsieur Simoneau est chez lui. » Marguerite ne répondit pas. J'assistais à toutes ces scènes comme de très loin. Il me semblait par moments que je volais, ainsi qu'une flamme subtile, dans l'air de la chambre, tandis qu'un étranger, une masse informe, reposait, inerte sur le lit. Cependant, j'aurais voulu que Marguerite refusât les services de ce Simoneau. Je l'avais aperçu 3 ou 4 fois durant ma courte maladie. Il habitait une chambre voisine et se montrait très serviable. Madame Gabin nous avait raconté qu'il se trouvait simplement de passage à Paris, où il venait recueillir d'anciennes créances de son père, retirées en province et mort dernièrement. C'était un grand garçon, très beau, très fort. Je le détestais, peut-être parce qu'il se portait bien. La veille, il était encore entré et j'avais souffert de le voir assis près de Marguerite. Elle était si jolie, si blanche à côté de lui. Et il l'avait regardée si profondément pendant qu'elle lui souriait. Elle lui disait qu'il était bien bon de venir ainsi prendre de mes nouvelles. « Voici Monsieur Simoneau, » murmura Madame Gabin qui rentrait. Il poussa doucement la porte, et dès qu'elle l'aperçut, Marguerite de nouveau éclata en larmes. La présence de cet ami, du seul homme qu'elle connut, réveillait en elle sa douleur. Il n'essaya pas de la consoler. Je ne pouvais le voir, mais dans les ténèbres qui m'enveloppaient, j'évoquais sa figure, et je le distinguais nettement, troublé, chagrin de trouver la pauvre femme dans un tel désespoir. Et qu'elle devait être belle pourtant, avec ses cheveux blonds dénoués, sa face pâle, ses chères petites mains d'enfant brûlantes de fièvre. « Je me mets à votre disposition, madame, » murmura Simoneau, « si vous voulez bien me charger de tout. » Elle ne lui répondit que par des paroles entrecoupées. Mais, comme le jeune homme se retirait, Madame Gabin l'accompagna, et je l'entendis qui parlait d'argent en passant près de moi. Cela coûtait toujours très cher. Elle craignait bien que la pauvre petite n'eût pas un sou. En tout cas, on pouvait la questionner. Simoneau fit taire la vieille femme. Il ne voulait pas qu'on tourmentât Marguerite. Il allait passer à la mairie et commander le convoi. Quand le silence recommença, je me demandais si ce cauchemar durerait longtemps ainsi. Je vivais, puisque je percevais les moindres faits extérieurs. Et je commençais à me rendre un compte exact de mon état. Il devait s'agir d'un de ces cas de catalepsie dont j'avais entendu parler. Déjà, quand j'étais enfant, à l'époque de ma grande maladie nerveuse, j'avais eu des syncopes de plusieurs heures. Évidemment, c'était une crise de cette nature qui me tenait rigide comme mort et qui trompait tout le monde autour de moi. Mais le cœur allait reprendre ses battements, le sang circulerait de nouveau dans la détente des muscles, et je m'éveillerais et je consolerais Marguerite. En raisonnant ainsi, je m'exhortais à la patience. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. I am called.
And I can't sleep. But we both know a change is coming. Coming closer, sweet release.
Voilà, Lyrics, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous retrouverons avec plaisir le mois prochain, comme d'habitude, le dernier dimanche de chaque mois, à 20h, sur Radio U. D'ici là, nous vous souhaitons de belles lectures. Sachez que vous pouvez retrouver les podcasts de l'émission sur la page Lyrics de Mixcloud.
De la littérature, de la musique, c'est Lyrics, sur Radio U, 101.1.